Quand, sur un même thème, deux livres se croisent, s'interpellent et s'enrichissent en écho, c'est Livre en Résonance, votre nouvelle émission littéraire, un mardi sur trois à 14h et en replay le samedi suivant à 19h. Vous êtes bien sur Station Simone.
Bonjour à tous. Pour ce troisième numéro de Livre en Résonance, nous avons choisi de vous parler de deux livres dont le vrai personnage principal n'est pas un être humain, mais c'est une usine, une machine à broyer les hommes, au propre comme au figuré. Alors Télémaque, aujourd'hui, va vous parler
de D'acier, un livre de Silvia Avallone, son premier roman, qu'elle a écrit en 2010 et qui est sorti, traduit d'italien en 2011, par Françoise Brun aux éditions J'ai lu.
Quant à moi, je vais vous parler du Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, paru en 2014 aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, en Italie et en France.
En ce qui concerne le livre de Silvia Avallone, l'action se situe en Toscane, à Piombino, au bord de la mer, et en même temps au pied de barres d'immeubles HLM construites pour loger les ouvriers.
Voilà, le bord de la mer n'est pas toujours tel qu'on se représente.
Et non. L'action dure très précisément un an, de l'été 2001 à la rentrée 2002, septembre 2002. Et nous allons suivre dans ce livre le destin de deux jeunes filles, deux jeunes adolescentes de 13-14 ans, issues du milieu ouvrier. On va voir comment elles arrivent à se sortir de ce contexte brutal et déprimant dans lequel elles vivent, pour vivre tout de même, pour arriver à vivre une adolescence.
Oui, et ne pas reproduire le modèle de leurs parents,
absolument,
qui leur semble l'horreur absolue.
Absolument.
Alors, le Liseur du 6h27, ça se passe de nos jours, ça se passe en grande banlieue parisienne, à l'usine Stern, qui veut dire Société de Retraitement et de Recyclage Naturel. C'est pas une étoile, c'est pas Stern, ni un oiseau marin, c'est pas une Stern non plus.
Non.
C'est un pilon qui détruit les livres invendus. Machine brutale. Et puis ça se passe aussi partiellement dans une maison de retraite, et puis dans le sous-sol d'un centre commercial, un endroit où on va faire pipi.
Exactement.
Ce ne sont pas des lieux dits poétiques.
Non. Vraiment,
mais on va voir qu'on peut en trouver une grande beauté poétique.
C'est ça la difficulté et l'originalité du livre. Alors, en ce qui concerne D'acier, comme personnage principal, je vais aussi dire que c'est l'usine d'aciérie qui produit des rails et qui s'appelle la Lucchini, qui est le personnage principal parce qu'on en parle tout le temps. Elle nous est présentée, décrite comme un animal monstrueux qui broie la vie et le moral des ouvriers qui y travaillent, et qui les abrutit de fatigue et de chaleur, bien sûr. Voilà, donc tout au long du livre, on fait référence à cette usine qui surplombe la ville. Alors pour ce qui est des personnages proprement dit, on suit le destin de Francesca sur une année, c'est la plus belle fille de Piombino. C'est une fille unique de Enrico et de Rosa. Elle est hautaine et déterminée, elle n'est pas du tout passive ni assaillie de dépression. Pourtant, elle a été victime de la brutalité de son père, qui est très jaloux d'elle, et de la passivité de sa mère, qui a eu Francesca beaucoup trop jeune.
Voilà, puis il y a un petit contraste entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord. Mmh. La mère vient du Sud, si je
oui.
me souviens
oui,
bien.
Oui, c'est vrai. C'est
elle
vrai.
Est un petit peu soumise à son mari.
Complètement. Mmh. Alors, Francesca a une très bonne amie, qui s'appelle Anna, mais le jour où Anna prend un petit ami, qui s'appelle Mattia, Francesca est furieuse, jalouse, donc on peut se demander pourquoi, mais elle n'est pas très heureuse du bonheur de sa meilleure amie.
Alors, il y a un petit côté vie d'Adèle, je vais dire, dans ce roman.
Je pense.
Ce sont très belles scènes d'ailleurs, ce sont des scènes très provocantes, parce que ces deux filles sont très très provocantes. Elles sont très belles, elles le savent. Elles veulent être complètement en rupture avec le milieu dans lequel elles vivent, où il règne un patriarcat assez puissant.
Mmh.
Et elles font tout pour choquer.
Et pour attirer le regard sur elles.
Et attirer le regard sur elles, voilà.
Francesca sait qu'elle est très belle. Anna n'est pas vilaine non plus. Ce sont deux très belles filles. Hein. Attention, des très belles filles. D'ailleurs, Alessio, le frère d'Anna, est un très beau garçon lui aussi. Il a une vingtaine d'années. Il travaille à l'usine. Il a été laissé tomber par Elena, qui est partie faire des études. Et il cherche constamment querelle à son père. Arturo, qui est un petit mafieux qui a démissionné de l'usine pour vivre de commerces illégaux.
Voilà. Dans ce contexte, quand on veut faire des études, on quitte Piombino,
oui,
obligatoirement. Donc,
oui, oui,
ça fait de fait une coupure sociale et culturelle.
Tout à fait. Mais je pense que Elena est restée amoureuse d'Alessio. Hein. Mais bon, c'est très compliqué tout ça. La mère d'Anna et Alessio est l'intellectuelle du quartier. Je parle d'un grand quartier, attention. Oui. Elle lit les journaux très régulièrement. Elle parle comme une syndicaliste, mais elle n'arrive pas à aller au bout de ses idées. Elle ne les transforme pas en actes.
Alors, ce qui est étonnant dans ce roman aussi, c'est qu'il y a un autre personnage principal, c'est un personnage géographique.
Tout à fait.
Dont on n'a pas la représentation, la même représentation en France qu'en Italie.
Oui, pour des raisons historiques. Alors, l'autre personnage, on va dire, c'est l'île d'Elbe, dont on parle tout le temps dans le roman, qui est considérée comme un paradis pour les touristes et les riches. Alors, les gens du quartier de la Lucchini n'y vont pas, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant pour des raisons d'argent, parce que le passage n'est pas si cher que ça.
Ils oui, pourraient prendre le bateau, c'est
ils pourraient se l'offrir.
C'est une navette, en fait, le bateau.
Voilà,
oui.
Ils peuvent se l'offrir, mais il y a comme une barrière intérieure.
Une barrière culturelle.
Voilà, ils s'interdisent en quelque sorte d'y aller.
Une honte.
Voilà, ils veulent pas se mélanger sans doute aux riches et aux touristes, et donc l'île d'Elbe devient une sorte de paradis idéalisé.
Pas du tout la prison de Napoléon.
Ah ben non, pas du tout.
Non, c'est
du
au contraire un paradis. Mmh. Ouais, paradis
paradis sur terre.
Oui. Alors, on a aussi dans le liseur du 6h27 une machine qui broie. Hein, c'est la Zerstör 500 de Zerstören en allemand qui veut dire détruire. Et c'est un pilon, donc c'est une machine qui broie tous les livres invendus. Et or, c'est très pénible parce que cette machine qui a donc des mâchoires d'acier rotatives, elle injecte aussi de l'eau bouillante sous pression parce que les livres sont non seulement broyés, mais ils sont aussi transformés directement en pâte à papier. Donc, il règne dans cette usine non seulement un bruit infernal de la machine broyeuse, mais une atmosphère étouffante à cause de cette eau bouillante. Et puis, c'est dangereux parce qu'en fin de journée, il faut aller nettoyer les dents de la machine. Et malgré la sécurité qui est mise, eh bien, quand l'ouvrier doit aller nettoyer les dents de la machine, eh bien, une fois, d'une façon inexpliquée, la machine s'est quand même mise en route et un ouvrier y a perdu deux jambes. Mmh. Donc, ils y vont tous, quand c'est à leur tour d'y aller, avec une certaine appréhension.
Donc là, il y a un gros problème de sécurité.
Il y a un gros problème de sécurité, surtout que le patron n'est pas très, très à cheval sur la sécurité. Donc, c'est la Zerstör 500, c'est un petit peu une autre machine à broyer, comme l'est la Lucchini à Piombino. Comme autre personnage, mais on a Guilin, qui est chef opérateur dans cette usine, qui a la trentaine d'années. Il n'aime pas vraiment son métier parce que ça le déprime physiquement et ça le déprime moralement, parce que c'est un métier où on passe son temps à détruire l'œuvre des autres. Mmh. Et lui, qui aime la littérature, eh bien... ça ne lui plaît pas.
C'est extrêmement triste, en effet. On aimerait que ces livres non vendus soient donnés à des pays où il est difficile d'acquérir des livres. Mais malheureusement, le pilonnage est obligatoire.
Oui, c'est ça. On sait bien qu'il y a des livres qui sont vendus chez les bouquinistes, etc. Il y a des choses, mais nous produisons, nous, maintenant, une telle quantité de livres. Il n'y a qu'à voir les tables des rentrées littéraires. Cette masse, on ne peut pas la laisser non plus s'accumuler, même s'il y a une obligation de conservation.
Ça pose ce problème.
Ça pose ce problème. Et donc, même, on l'apprend dans le roman, même des prix littéraires récents qui sont invendus passent au pilon.
Donc là, je dirais qu'il y a un côté absurde.
Oui, il y a un côté absurde, oui.
La machine détruit le surplus de production.
Oui, exactement. On en est aussi à détruire. Comme on détruit des viennoiseries dans des grandes surfaces ou dans des usines.
Voire des fruits et légumes.
Voire des fruits et légumes. Et bien là, on détruit des livres, c'est-à-dire aussi des œuvres que des gens ont mis des mois, voire des années à écrire. Donc c'est encore aussi c'est le fruit du travail qui est détruit.
Le thème est terrible.
Le thème est terrible. Ce n'est pas si déprimant que ça, parce que l'auteur introduit des tas de personnages pittoresques. Le gardien, par exemple, le gardien de l'usine, parle en alexandrin. Il y a un ouvrier comme Giuseppe, bien, même si c'est lui dont les jambes ont été broyées, il recherche ses jambes d'une façon tout à fait originale, qu'on ne vous dira pas pour vous donner envie de les trouver dans le livre. Il y a comme personnage un poisson rouge, qui s'appelle Rouget de Lille, c'est le poisson rouge de Guilin. Il y a des pensionnaires d'une maison de retraite, et puis il y a la mystérieuse Julie. Tous ces personnages constituent un petit monde attachant, alors que le travail est déprimant. Mais je pense que c'est un point commun dans ces deux romans, c'est que à peine commencé, on a tout de suite envie de savoir la suite. Voilà. Et bien la suite de Livre en résonance, ça va être après une pause musicale.